Bienvenue dans le podcast J'aime mon métier, le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vincotte, co-directrice de la plateforme du Guide Social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psychomédico-sociaux. J'aime mon métier, c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier. Des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. Fiona savait depuis toute petite qu'elle voulait mettre son temps au service de la société. C'était pourtant une perspective d'avenir qu'elle s'empêchait de concrétiser en se barricadant avec des clichés et des barrières qu'elle s'était elle-même inventées. C'est donc après avoir bien mûri sa décision qu'elle s'autorise à suivre sa vocation et entame une reconversion de carrière à 30 ans pour devenir assistante sociale dans le secteur du sans-abrisme. Avec son équipe et son réseau d'associations, de professionnels et de bénévoles, Fiona tisse un lien social unique avec des personnalités mises hors circuit. Si elle ne veut pas entendre parler de l'étiquette du super-héros, Fiona accepte avec humilité son rôle de petite fée, dans un monde où la dignité humaine tient parfois à un fil ou à ce qui pourrait paraître un détail, une douche, un café ou une remise en logement. Fiona nous emmène aujourd'hui à travers son parcours professionnel, depuis ses études qu'elle recommence de zéro, à ses premiers pas sur le terrain, jusqu'à son quotidien d'assistante sociale chez Rolling Douche. La jeune femme solaire nous dresse un portrait du sans-abrisme bien plus lumineux qu'il n'y paraît, nous raconte ses petites victoires qui lui donnent envie de se battre au quotidien, nous clame haut et fort le droit de se tromper, le droit de prendre la mauvaise route, mais surtout le droit de changer le cours de sa vie pour enfin suivre ses tripes. Bonjour Fiona.
Bonjour Émilie.
Comment tu te sens ?
Ça va, très bien, merci.
Merci d'être là. C'est la première pour nous aujourd'hui, donc je suis super heureuse de t'avoir en face de moi. Tu inaugures avec nous, je l'espère, le premier de nombreux podcasts du Guide Social. Fiona, je te propose de te présenter et de nous présenter ton métier pour lequel tu es là aujourd'hui.
Alors donc je suis Fiona Kemp, j'ai 36 ans et je travaille en tant qu'assistante sociale pour la SBL Rolling Douche, qui est... une SBL qui s'occupe de personnes sans-abri et précarisées. C'est un service d'hygiène mobile. Donc, nous allons à trois endroits stratégiques de Bruxelles les lundis, mercredis et vendredis, avec un mobil-home dans lequel il y a une douche. Et donc, nous proposons à des personnes, aux personnes qui le veulent, de prendre une douche, entre autres.
Et le métier d'assistance sociale, tu nous expliques un petit peu ce que c'est ?
Le boulot d'assistante sociale, c'est être là pour les gens, les personnes qui en ont besoin. En tout cas, dans le cadre de mon métier à moi, au sein de la SBL, c'est le contact, la parole. Donc, les personnes qui viennent se livrer, des personnes qui viennent juste parfois pour papoter, qui ont besoin de contacts sociaux qui n'ont pas forcément par ailleurs. D'un point de vue plus pratico-pratique, le boulot d'assistante sociale, c'est aussi répondre à des demandes, quelles qu'elles soient. Donc, dans le cadre, évidemment, du sans-abrisme, c'est beaucoup des demandes concernant le logement, comment on trouve un logement, est-ce qu'on peut téléphoner au SAMU social pour avoir une place dans un centre, un des centres d'urgence sur Bruxelles. C'est les accompagnements sociaux, donc accompagner au CPAS, dans des maisons médicales, à la commune pour aller chercher des papiers, c'est un tas de choses comme ça.
C'est une vocation que tu avais en toi depuis toute petite ?
Je me souviens très bien un jour, j'ai dit à ma mère, je devais avoir 3-4 ans, parce qu'elle a très fort paniqué, que plus tard je serais très riche pour donner tout mon argent aux pauvres. Voilà, et parce que je voulais vraiment aider, je voulais pouvoir me donner aussi pour les autres. Et c'est-à-dire que moi, c'est un chemin que j'ai essayé d'outrepasser, de détourner par tous les moyens possibles. Alors que je l'avais effectivement en moi. D'ailleurs, au centre PMS, en réto, on avait fait le test et ça, c'était vraiment le top du top qui est inscrit sur ma liste. Et donc, pour des raisons tout à fait particulières et personnelles, je ne voulais pas être assistante sociale. Et donc, j'ai commencé à faire des études. J'ai fait des études de tourisme pendant 3 ans. Et puis, parce que j'aimais bien étudier et surtout pas travailler pour du vrai, j'ai continué à faire des études en histoire de l'art pendant 5 ans à l'UNIF, ici à l'ULB. J'ai travaillé pendant 3 ans. Et puis, cette vocation, si on peut dire, m'a rattrapée. Donc, une grosse remise en question. J'ai vraiment beaucoup réfléchi. Il y avait vraiment un manque dans ma vie un manque vital en fait dans ma vie. Et donc, à l'âge de 30 ans, j'ai repris des études pour devenir assistante sociale ici à l'IESID, à la rue de l'Abbaye, à Bruxelles. Et donc, ça, c'est trois années géniales, incroyables, pendant lesquelles j'ai appris un tas de choses et qui m'ont permis effectivement d'avoir mon diplôme en 2018. Juin 2018. Et depuis, donc, je suis assistante sociale et c'est rien que de le dire, de dire je suis assistante sociale, pour moi, c'est une fierté, c'est une...
Et quel a été J'aime le déclic bien. Pour toi, du coup? Comment est-ce que tu as pu t'autoriser à être enfin le métier que tu voulais?
Je ne sais pas très bien, c'est vraiment... Ça m'est venu, je pense qu'il y a une chose. Je me souviens très bien être allée dans une occupation à Quetelet, et c'était le collectif Ebola qui avait ouvert en fait un bâtiment pour donc recueillir des personnes issues des pays africains et donc qui étaient sans papier ici et qui étaient vraiment, je pense qu'il y avait 100, 150 personnes. Et j'y suis allée une fois, deux fois, trois fois. J'ai apporté des vêtements, de la nourriture, j'ai beaucoup parlé avec ces personnes. Et je pense que c'est là en fait que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment énormément de personnes en Belgique ou partout ailleurs, qui avaient vraiment besoin de monde. Et je me souviens très bien, le lendemain, retourner dans ma grosse boîte et me dire, qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que... Voilà, je suis derrière un ordinateur et je travaille pour des gens qui ramassent des grosses sommes d'argent, et alors qu'il y a des gens qui ont besoin d'autres personnes pour survivre, pour subsister, et pour ne fût-ce que manger et parler aussi, énormément.
Et ça a été accueilli comment, alors, au sein de ta famille, ton entourage, ta grande décision?
Oh, ma mère, évidemment, c'est... Ah, mais je l'ai toujours su, hein. Je te l'avais dit, hein. T'imagines par où t'es passé? T'es passé par plein de diplômes, par plein d'études, mais pourtant, moi, je te l'avais dit, hein, quand même, quand t'es sortie de réto. Oui, maman, c'est vrai, tu avais dit.
Donc, voilà. C'était pas eux qui t'en empêchaient?
Oh, pas du tout. Okay. Oh non, pas du tout, du tout, du tout. Non, ça a été très bien accueilli. Et d'ailleurs, moi, la majorité de mes proches m'ont dit, bah oui, c'est évident que c'est fait pour toi.
Il y avait que toi qui te le cachais à toi-même, en fait.
Ouais. Okay. Je me le cachais pas, je ne voulais pas.
Tu ne voulais pas.
Voilà. C'était pourtant une évidence pour moi aussi, hein, mais je ne le voulais pas.
Tu le sais au fond de toi, pourquoi tu veux en parler?
Je pense que la société faisait effectivement en sorte que sortir des humanités, en tout cas on pensait que l'UNIF c'était bien sur un CV, c'était bien pour avoir un bon boulot. Et voilà, moi les boulots que j'ai eu avec mon papier n'étaient pas du tout en plus les boulots que je voulais avoir. Et donc là ça m'a bien prouvé qu'il n'était pas nécessaire du tout de passer par l'UNIF et qu'on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait. On avait aussi l'image de l'assistante sociale très derrière un bureau, finalement être derrière un ordinateur, alors que c'est pas ça du tout. Il faut vraiment qu'on enlève cette image-là de la tête. C'est celle que j'avais en tout cas et celle qu'on nous transmettait quand j'étais beaucoup plus jeune.
Tu t'es fait un peu embarquer dans le cliché du métier.
Oui, c'est ça, probablement. Et puis,
c'est un cliché qui est encore présent, tu penses?
Je sais pas très bien, je pense que... C'est vrai que moi, mes amis, quand je leur parle de mon travail, ah oui, c'est bien, c'est vraiment... c'est varié, donc tu es dehors, donc tu es avec des personnes. Donc c'est pas un bureau. D'ailleurs, quand je leur dis que j'ai pas de bureau, je dis, ah oui, mais c'est pas compliqué. Oui, c'est un peu compliqué, mais on s'en sort. Il y a une variété de possibilités dans le travail social, dans le travail d'assistance sociale, que je pense effectivement la majorité de la population ne sait pas, ne connaît pas.
Et quelles sont les étapes par lesquelles on passe à 30 ans quand on veut se reconvertir? Et qu'est-ce qui te passait par la tête?
J'ai un tout petit peu réfléchi. Hein. Je pense que j'ai commencé à me poser la question en fin juillet. Puis j'en ai parlé avec une amie assistante sociale pour essayer d'arrêter mon choix parce qu'il était plus ou moins fait. Mais c'était pour essayer que peut-être qu'elle me mette un peu des bâtons dans les roues alors qu'elle a fait exactement le contraire. J'en ai parlé avec des amis, avec ma maman. Et mon choix était plus ou moins fait. Donc il a fallu d'abord que j'en parle avec mon employeur. Et mon préavis était de 2 semaines, je pense, quelque chose comme ça. Et donc, fin août, je lui ai dit, écoutez, voilà, maintenant je pars. Et je pense que mon dernier jour était le 11 septembre et j'ai commencé le 15 septembre à l'école. Donc voilà, j'ai
T'as été... 30 ans, tu débarques, ouais. Ton cartable.
À 30 ans, voilà, alors on me voyait dans les couloirs parce qu'on pensait que j'étais une des profs.
Comment t'as vécu ces années du MIF?
Super.
Parce que du coup, c'est quand même un bachelier.
Oui,
assistant social, 3 ans. En haute école.
Oui. Mais moi, j'étais persuadée que moi, j'allais les tirer vers le haut parce que j'avais mon âge et parce que j'avais mon expérience, en fait. J'ai pas envie de tirer vers le bas parce que c'est pas du tout ça, mais c'est eux qui m'ont ramenée à leur âge et à leur façon de vivre de l'époque. Donc voilà, j'ai recommencé à être une pré-adulte à 30 ans. Et d'ailleurs, j'ai plein de copines maintenant qui ont 10 ans de moins que moi. Et je me suis bien rendu compte, en tout cas, que l'âge n'avait vraiment que très peu d'importance et que l'expérience en avait beaucoup. Mais voilà, et donc moi, mes 3 années, ça a été 3 années de joie, de folie, d'un apprentissage aussi extraordinaire, parce que les cours qu'on avait, les expériences aussi que j'ai eues étaient que du nouveau, que du bénéf. Et ça a été vraiment 3 années incroyables. Et je me dis toujours si je pouvais les refaire. Mais bon, voilà, je ne vais pas le refaire juste pour m'amuser.
Et est-ce que tu fantasmais un peu le terrain? Comment sont passés tes stages? Est-ce que justement tu t'es pris une grosse claque quand tu t'es retrouvée confrontée à la réalité du terrain?
Mais c'est-à-dire que moi, j'ai toujours su le secteur dans lequel je voulais travailler, donc le sans-abrisme. Et je me souviens aussi quand je suis arrivée à Bruxelles, donc à l'âge de 22 ans, je parlais beaucoup avec des personnes sans-abri dans la rue, essayais de nouveau de leur trouver des solutions. Je ne m'y connaissais absolument pas, donc...
Les secteurs, ils sont super vastes pour les étudiants qui étaient avec toi. Est-ce que c'est une vocation naturelle, le secteur vers lequel on s'oriente? Est-ce que,
non,
comme
ça,
toi,
pense pas. Non.
Ou est-ce qu'on va là où on gagne le mieux? Est-ce qu'on va là où il y a de la place? Comment est-ce que tu définirais ça?
Ça dépend vraiment des gens. Moi, je savais en tout cas que c'était le sans-abrisme. Il y a des personnes pour lesquelles ce n'était pas du tout évident, qui s'essayaient un petit peu. Justement, pendant les stages, ça, c'est très important. Les stages, et je le revendique, dès la première année, c'est vraiment très important parce qu'on touche au terrain. Et c'est vraiment... par la pratique qu'on apprend et qu'on fait notre terrain. Les cours sont très importants, évidemment, pour théoriser le terrain. Mais c'est vraiment sur la pratique qu'on apprend. Et il y a beaucoup des personnes avec lesquelles j'étudiais qui n'avaient pas d'idée préconçue, en tout cas avant, de ce qu'elles voulaient faire. Et donc, elles ont essayé, premier stage dans un secteur, deuxième stage dans un autre, troisième stage qui est le plus long dans un autre. L'école, justement, pour qu'on ait cette variété d'expériences, refusait qu'on fasse 2 stages dans le même secteur aussi. Donc ça, c'était une très, très bonne idée. Et donc, en fait, moi, sachant que je voulais travailler dans le sans-abrisme, j'avais déjà en tête mon stage de 3e, qui était chez infirmier de rue. Et donc, mon premier stage, je l'ai fait au CFB, Centre familial de Bruxelles. Donc ça, c'est pour octroi d'aide familiale et ménagère. En 2e, je voulais quand même tester l'aide à l'enfance, l'aide à la jeunesse. Ça ne m'a pas du tout plu, pas du tout pour l'endroit ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment le rapport avec l'enfance en difficulté. Donc, je suis très contente de l'avoir fait, comme ça je le sais. En tout cas, j'avais des petits doutes et là, je suis certaine que ce n'était pas fait pour moi. Et donc, en 3e, effectivement, le stage le plus important. Et donc, c'est pour ça que je voulais faire mon stage le plus important en termes de temps chez infirmier de rue. Et donc, ça, je l'ai fait en 3e.
Tu te souviens de ta première claque de terrain en tant que stagiaire? Tu peux nous la raconter?
Il y en a eu plusieurs, hein. Il y en a eu plusieurs. Ben, en 2e, ça c'était très difficile parce que c'était un papa qui, je ne sais plus s'il venait de perdre la garde de ses enfants, mais en tout cas qui venait voir ses enfants à l'espace rencontre et qui avait des rapports très très difficiles avec eux. Et les enfants ne voulaient pas parler au papa et donc le papa était totalement désemparé. Ça a été vraiment très difficile à voir, autant pour les enfants que pour le papa. Et alors en 3e, c'est quand on est confronté à la mort d'une personne du public. Pendant mon stage, ça, il y a eu quand même 2 personnes, si ma mémoire est bonne, qui étaient en logement, qui sont mortes. Donc, qu'on côtoie, qu'on voit évoluer, qu'on suit, et qui, pour des raisons X, Y, trouvent la mort. Et ça, c'est très compliqué.
Oui, je peux imaginer que les relations et les liens qu'on tisse doivent être évidemment puissants. Le sans-abrisme, on n'y rentre pas en une fois, et puis on n'y sort pas directement non plus. Comment est-ce que toi, tu gères ça au quotidien, parce que c'est des situations que tu rencontres encore aujourd'hui.
Ah oui, dans mon boulot actuel, je côtoie majoritairement des personnes sans abri, donc sans maison, sans foyer.
Si je suis un petit peu la chronologie des faits, tu viens de découvrir le terrain finalement et tu te dis « Ok, je valide, c'est bien mon choix
ouais.
Et j'y vais ».
Ça a confirmé en tout cas mon choix de faire en tout cas une bonne partie de mon expérience professionnelle dans le monde du sans-abrisme.
Tu te souviens d'une anecdote qui t'a rendue super fière d'être là où tu étais à ce moment-là?
Les remises en logement, d'assister à des remises en logement et de voir au fur et à mesure du temps qui passe la personne qui est vraiment dans une pleine gratitude en fait, par rapport à l'équipe et par rapport à la SBL. Parce que c'est finalement grâce à l'équipe qu'elle est en logement et que son calvaire s'est terminé.
Et t'es sortie du coup de tes études, t'as repris donc à 30 ans, tu sors de tes études à 33, et tu trouves ton travail actuel tout de suite?
Non, Non, j'ai d'abord travaillé pour un centre d'accueil de jour au centre-ville de Bruxelles qui s'appelle Bay-Ons chez nous. Là, j'y ai travaillé plus ou moins un an. Et donc voilà, j'avais gardé contact avec Pascal et par hasard, je l'ai rencontré lors du face-à-face pour un logement en septembre 2020. C'est mon boss, hein, Pascal. Et il m'a demandé, tiens, tu cherches pas un boulot? Et justement, j'avais rien à ce moment-là. Et enfin, bah, tiens, j'ai un mi-temps à te proposer, assistante sociale si tu veux. Et voilà. Et donc, c'est tout à fait par hasard que ça s'est fait. Et j'ai commencé mi-novembre 2020.
Et depuis, tu regrettes pas un instant, avoir fait ce choix?
Non, je regrette pas. Comme je disais l'autre jour, le plus difficile, c'est le froid. Voilà.
J'allais dire, c'est
Le
quoi ton
froid, la
quotidien?
pluie.
Là, maintenant, on est au mois de décembre, hein,
Ouais.
il a neigé il y a quelques
Ouais.
jours.
Bah, le quotidien, donc en fait, lundi, mercredi, vendredi, après-midi, nous sommes sur le terrain. Lundi, Flagey, mercredi, rue des Saules derrière la gare du Midi et le vendredi, à l'Esplanade de l'Europe, à la gare centrale. Entre 13h et 13h30, on arrive et on s'installe. Et alors, ça dure, ça dépend du nombre de douches, parce qu'on reste jusqu'à la dernière douche. Et donc, en général, il y a en moyenne entre 8 et quand c'est vraiment. Enfin, quand ça va vite et qu'il ne fait pas trop froid ni trop chaud, c'est 16 douches. Et ça, c'est vraiment le maximum. Et donc, on part vers 17h30, 18h, 18h30, parfois 19h. Ça dépend un petit peu du nombre de douches et des personnes qui les prennent. Et donc, l'équipe gère la liste des douches. Mais. Les douches, c'est un peu le prétexte, hein. On est bien d'accord, c'est évidemment, c'est notre mission, c'est l'hygiène. Donc, c'est que les gens prennent la douche, mais à côté de ça, donc on offre des boissons chaudes, donc café, thé, chocolat chaud et soupe. Et alors, on offre aussi des kits hygiène. Et alors, quand les gens prennent leur douche, on leur propose des vêtements propres. On distribue aussi à la demande des chaussures, des vestes, des écharpes, des gants, enfin, tout ce qui est lié au froid. Et alors, tout le reste du temps, c'est vraiment beaucoup de discussions avec les gens. Nous, on est donc que ce soit à l'intérieur du mobil-home, enfin que nous, l'équipe, on soit à l'intérieur du mobil-home ou à l'extérieur. Malheureusement, à cause du Covid, on peut pas inviter du monde à l'intérieur, ce qu'il faisait avant. Mais sinon, c'est vraiment beaucoup de discussions à l'extérieur. C'est des jeux d'échecs. Beaucoup jouent aux échecs. Moi, j'ai jamais compris, donc malheureusement, je ne sais pas jouer avec eux. Mais ma collègue Alice. Adore jouer aux échecs, donc on installe le jeu d'échecs sur une table, et donc il y a presque des tournois parfois d'échecs qui s'improvisent. Il y a très souvent un coiffeur aussi qui est là. Nous sortons toujours avec l'ASBL Bulle, qui propose des machines à laver pour les personnes sans abri et précarisées. Donc ça fait une grosse équipe, et de travailleurs, et de bénévoles, et de public.
C'est le rendez-vous à ne pas
Ouais.
manquer pour eux.
C'est un rendez-vous, en tout cas, oui, je pense, à ne pas manquer. Et les personnes qui. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui viennent, enfin beaucoup, il y a plusieurs personnes qui viennent aux trois sorties, mais qui ne prennent pas la douche, qui ne font pas de machine, et qui disent vraiment, nous, on vient pour le lien. Et ils savent, en tout cas, à telle heure, on est là-bas. Ils arrivent, ils sont parfois là avant nous, et ils sont là jusqu'à notre départ. Et ils nous ont déjà comparé à leur famille. Il y a vraiment des gens qui disent, oui, vous êtes comme la famille, parce que moi, j'en ai plus. Et donc. Vous m'apportez ce rapport, ce lien que je n'ai plus. Et alors, c'est soit c'est papote, on prend le café, la personne prend le café, parle un petit peu de leur quotidien, bon, où est-ce que tu as dormi, est-ce que tu as mangé, tiens, t'es allé à la fontaine, ou tiens, est-ce que t'es allé chercher ta carte médicale, toutes des choses comme ça. Très rarement, ils se plaignent. Très rarement, ils se plaignent. Et alors, quand ils se plaignent, c'est plus. Pour demander de l'aide, genre, ah bah tiens, j'ai encore dormi sur le banc cette nuit, ma couverture est trempée, est-ce que je pourrais en avoir une autre? Des choses comme ça, c'est pas, et j'en ai marre, et ma vie me pèse, et j'en peux plus d'être à la rue, il y a très très peu ça, très 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 peu. Bah, c'est ça que moi j'adore dans mon boulot, principalement, c'est le lien avec les gens, c'est incroyable, rien qu'à vous en parler. J'ai le sourire aux lèvres parce que on tisse vraiment des liens incroyables. On le rapporte, évidemment, tout ce qui est d'un point de vue social. Donc, pour les aides, comme je disais tout à l'heure, les aides, que ce soit au CPS, à la commune, en maison médicale, etc. Mais on le rapporte aussi énormément de ce contact. En fait, il y a quelqu'un qui est venu un jour qui ne prenait pas spécialement la douche ou parfois une fois de temps en temps et qui disait, voilà, moi je viens ici parce que je sais que je vais vous retrouver. Et moi, si je viens, c'est pas pour la douche, c'est pas pour le café. Enfin, quoique, il aime bien boire un petit café de temps en temps, mais c'est vraiment pour le contact. Il y a nous, les travailleurs, mais il y a aussi les personnes du public qui viennent et qui se côtoient et qui créent des liens. Mais en tout cas, le lien qu'on a, nous, avec les personnes sur le terrain, est incroyable. On sent comme ça les personnes avec lesquelles on peut avoir plus de familiarité, qu'on peut plus titiller, des personnes qui, contrairement à d'autres, sont très, très, très susceptibles, qui vont prendre la mouche. Voilà, donc il faut savoir doser, il faut savoir analyser aussi les personnes, et ça, c'est tout un travail.
Quelles sont les qualités et les traits de caractère à avoir quand on veut être assistant social ?
La persévérance, je dirais. De pas s'avouer vaincu trop facilement, écouter l'autre sans jugement, mais aussi sans s'imaginer, enfin, à la place de l'autre. Voilà, c'est ça. Donc attendre ce dont la personne a besoin, et ne pas se mettre à la place de l'autre, de vraiment attendre que l'autre fasse une demande sans réfléchir à ce que moi je veux pour l'autre, en fait. Attendre ce que l'autre veut. Donc, c'est vraiment l'écoute et s'écouter soi-même aussi. Je pense que ça va un peu dans les deux sens.
Toi qui as voulu depuis toujours travailler dans ce secteur-là, est-ce que tu as découvert d'autres choses sur le sans-abrisme ? Est-ce que la réalité du terrain, finalement, t'a amené à d'autres conclusions ?
Que c'est très difficile de... Bon, évidemment, qui dit sans-abrisme dit logement. Et il est très, 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 très difficile, malheureusement, de trouver à reloger ces personnes, pour x et y raisons. Sur Russet, c'est très compliqué. Bon, ici, nous, à Rolling Douche, on n'a pas encore tout ça, parce qu'on commence vraiment maintenant la remise en logement des personnes, et on se rend compte, en fait, que c'est plus compliqué que ce qu'on espérait. Il y a énormément de choses auxquelles il faut penser, et on n'a pas forcément on n'a pas forcément la formation, on n'a pas forcément les outils adéquats et nécessaires pour la remise en logement et pour suivre quelqu'un en logement, en amont et en aval, en fait, de la mise en logement. Pour l'instant, on a fait une remise en logement vraiment avec, enfin, nous-mêmes. Et ça, c'est pas plus tard que jeudi passé. Et donc ça, c'était une grande victoire et c'est un grand moment. Ça a été génial, quoi. Et donc voilà, c'est un peu ça auquel on est confronté tous les jours. C'est cette difficulté bureaucratique, finalement, étatique aussi, parce qu'il y a énormément de lois qui nous empêchent, nous, assistants sociaux, de mettre en place des solutions de remise en logement ou bêtement pour des démarches sociales. C'est vraiment...
Et en fait, il y a beaucoup d'entraide et de collaboration entre ASBL, ouais, et aussi du terrain.
Ah oui, énormément. J'ai souvent appelé Jamais sans toi, qui est près de la gare centrale. Je ne sais pas moi si la personne doit aller sur Internet ou un jour une personne, à l'époque, il faisait ça il y a 2 ans, je ne sais pas s'ils font encore ça, avait besoin de lunettes. Donc j'avais entendu que Jamais sans toi avait un partenariat comme ça avec un ophtalmo-opticien, bref, pour faire des lunettes. Et donc là, j'ai envoyé une personne qui est venue me remercier par après parce qu'il avait ses lunettes et donc ça, c'était complètement gratuit pour lui. Voilà, mais le réseau, c'est vraiment la moitié de notre boulot. Et c'est très, très, très important. Évidemment, moi, j'ai ayant fait mon stage chez infirmier de rue, j'ai encore des contacts avec les collègues. Et souvent, moi, je leur voilà, est-ce que ça... quelles sont les démarches pour accéder à telle demande? Bon, là, on a eu affaire à une agence immobilière sociale. Je me dis, tiens, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce que tu la connais? Oui, t'inquiète pas, ils sont très bien. Ah, voilà, merci.
Et le matin, quand tu pars bosser, c'est quoi qui te donne envie d'aller travailler?
Ah, c'est d'être avec eux. De me dire, ah tiens, telle personne n'était pas très bien lundi, on va voir comment est-ce qu'elle se sent maintenant. Telle personne veut faire telle chose, est-ce qu'elle l'a fait? Il y a plein de petites choses comme ça et les sorties se ressemblent parce que c'est plus ou moins toujours la même chose entre guillemets, mais elles sont toutes particulières en même temps parce que c'est jamais la même chose. Ce sera jamais exactement les mêmes personnes qui viennent, ce seront jamais les mêmes problématiques. Ça dépendra beaucoup de la météo. La météo fait vraiment énormément. Ça dépendra de l'ambiance qu'il y a aussi. Il y a parfois des atmosphères comme ça qui sont très lourdes, très pesantes, qu'on sent directement, ah, aujourd'hui ça va pas aller, il y a quelque chose qui va pas. Et de fait, effectivement, il y a des bagarres, il y a des personnes qui se battent. Bon, c'est pas au quotidien, hein. C'est vraiment, heureusement, c'est rare. Mais on le sent, ou alors, au contraire, c'est, ah ben voilà, un tel est là et de bonne humeur, à une telle personne, on ne l'avait pas vu depuis longtemps, et ça fait du bien, ou alors, Oui, c'est voir les gens, voir leur sourire, voir eux aussi qui sont contents qu'on soit là. Une personne qui accepte de prendre sa douche alors qu'il est très difficile de faire accepter cette personne de prendre sa douche. Et ça, à chaque fois une victoire, il y a une personne comme ça qui prenait sa douche une fois tous les 3 mois, et puis ça a été une fois tous les 2 mois, et puis une fois tous les mois. Et là, on est arrivé à plus ou moins tous les 10 jours, 15 jours. Et ça, c'est exceptionnel, c'est génial. Et ça, c'est aussi grâce aux liens, grâce au travail qu'on fait aussi, nous, les travailleurs sociaux, mais aussi le rapport que la personne a à son corps, au fait qu'elle prenne conscience aussi de son hygiène et de l'importance que l'hygiène a. Mmh.
Est-ce que tu t'es dit, il y a un moment, j'arrête tout? Est-ce que tu t'es déjà dit ça depuis que tu as commencé à bosser?
Ouais.
Et puis, qu'est-ce qui t'a fait?
Quand j'ai très froid. Mais c'est vrai, on s'en rend pas compte quand on travaille pas dehors. Mais c'est, non, c'est vrai, il y a des jours comme ça où j'en ai marre. Et de nouveau, il y a que nous qui nous plaignons. Mais sinon, vraiment, arrêter, ça non. Non, c'est vrai qu'il y a énormément de frustration. Quand on est confronté comme ça, comme je disais, aux barrières bureaucratiques, institutionnelles, étatiques, ça c'est difficile. Mais on continue. Et tant qu'on n'aura pas la solution, on continuera. Mais non, moi depuis que je travaille chez Roline Douche, non. Il n'y a rien qui m'a fait dire en tout cas que je voulais arrêter. Non.
Comment est-ce que tu te vides la tête en rentrant chez toi? Comment est-ce que tu arrives à faire la part des choses?
Bon.
Quelqu'un qui s'investit émotionnellement au niveau de ton énergie, qui va...
Oui, parfois je me sens fatiguée.
Qui va passer
oui.
La limite.
Ah oui, moi j'ai un grand problème de limite, hein. Ça c'est depuis toujours. On me l'a très souvent dit lors de mes études, on me le dit très souvent maintenant. J'ai un gros problème de limite, mais ça c'est un surinvestissement et un surinvestissement émotionnel aussi. Il est évident que parfois je rentre chez moi en me demandant est-ce que la personne... va bien, est-ce que la personne sera allée aux amis sociaux, est-ce que la personne aura dormi au chaud, est-ce que je parviens malgré tout à faire ma vie sans me culpabiliser d'être au chaud, à avoir à manger, de pouvoir sortir et de pouvoir me payer un cinéma ou une sortie au musée, n'importe quoi.
Est-ce que tu as un rituel particulier qui te permet de te dire ok, ça c'est ma vie, maintenant je pense à Fiona?
Il y a le trajet depuis... l'endroit où on laisse le van et chez moi, ça met plus ou moins 20 minutes. Je pense que l'air de rien, ce trajet-là, seul, sans l'équipe et sans les personnes du public, me permettent peut-être de déconnecter et d'arriver chez moi. Et bon, évidemment, je continue à penser à ce qui s'est passé, que ce soit des bonnes ou des mauvaises choses, hein, dans la voiture, mais... C'est-à-dire que, effectivement, mis à part cette barrière administrative, finalement, le contact que j'ai avec les personnes sur le terrain m'apporte tellement de choses que je n'ai pas des moments comme ça où je suis dépassée ou triste ou énervée ou quoi que ce soit. C'est vraiment... je ressors toujours plus nourrie et plus... nourrie, remplie que quand je suis arrivée, en fait. Parce qu'il y a toujours des petits moments drôles, des petits moments... intime qui se serait passé avec X ou Y personne, puis souvent on rigole avec les gens aussi. Il n'y a jamais vraiment de moment pesant en fait dans le boulot. Il y en a peut-être eu un ou deux comme ça sur l'année qui s'est écoulée, mais il est rare que je sorte de là-bas en me disant là ça a été difficile, je m'en serais bien passé quoi.
Est-ce que tu as l'impression de devoir sauver un peu chaque personne que tu vas aider? Ou est-ce que tu es plus, j'apporte une aide de première ligne
Eh ben ça, c'est un peu l'idée qu'on a de l'assistante sociale quand on arrive aux études. D'ailleurs, on a fait tout un travail là-dessus en première, je me souviens très bien. C'est Super AS. Vraiment,
ah oui.
Là, je lève le poing pour imiter, c'est quoi Superman? Super AS, donc ça, c'est vraiment la Super AS qui va sauver le monde. On va arriver, la personne va être là avec une demande... Voilà, je claque des doigts et c'est bon, c'est fait. C'est pas comme ça que ça se passe du tout. C'est-à-dire que... Donc là, on arrive, on est au 5e niveau du piédestal et on nous dit gentiment, écoute, tu vois le sol. Mais toi, t'es encore plus bas que le sol. Donc tu vas bien te calmer, tu vas revenir à ton niveau. Tu vas bien comprendre qu'en fait, c'est pas comme ça que ça se passe et que tu vas te prendre des murs, tu vas te prendre des claques. Tu vas vouloir solutionner tous les problèmes de la Terre, mais ça ne sera pas possible. Et donc, on apprend ça en cours, mais surtout sur le terrain. Et en fait, il faut être très humble quand, quand on est sur le terrain et quand on a S, c'est que il faut dire à la personne, écoute, moi, je vais faire tout mettre en place pour solutionner la demande. Je ne sais pas si ça va être résolu. On a un devoir de, une obligation de moyens, mais pas de résultats. Et donc, non, je ne crois pas que je vais sauver le monde et je ne crois pas que je suis une super S et je ne crois pas que je suis une surhumaine. Je crois que je fais ce que je peux avec ce que j'ai et avec les outils que j'ai et avec ce qu'on me permet d'avoir aussi, n'est-ce pas? Sans revenir à ce qu'on a déjà dit. Je pense que les personnes qui viennent chez nous pensent qu'on va solutionner leurs problèmes. Moi, j'ai très souvent des personnes qui me disent « Est-ce que tu veux bien m'aider pour avoir mes papiers ?» Je dis « Écoute, pour avoir tes papiers, tu dois faire ça. » Oui. Bon, ah, mais j'ai besoin d'un logement. Bah oui, bon, pour avoir un logement, c'est ça. Et encore, c'est si tu réponds à ça. Et si tu réponds à ça, bah, tu dois aller répondre à ça. Donc voilà. Donc les personnes, malheureusement, descendent un petit peu de l'idée qu'elles avaient de l'assistante sociale. Et c'est frustrant. C'est excessivement frustrant, mais c'est comme ça.
Est-ce que tu peux nous parler d'une frustration qui t'a marquée dans ton quotidien?
Oui, mais de nouveau, ça appartient à la personne en tant que telle. C'est-à-dire que j'ai un adage, après, ça dépend de cas à cas, mais mon adage, c'est la personne sait ce qui est bon pour elle. Bon, partant de là, je fonctionne très fort à la demande de la personne. Maintenant, il est évident que certaines personnes ne savent pas ce qui est bon pour elles, qui ont des problèmes de santé mentale, qui sont tellement éloignées de la réalité, de l'hygiène, du logement, quoi que ce soit, qui ne savent pas ce qui est bon pour elles. Ou qu'on voit qu'elle a un problème de santé, et donc on va plutôt lui faire comprendre qu'il faut mettre des choses en place. Donc parfois, on décide à la place des personnes. C'est-à-dire que par exemple, il y a une personne l'autre jour qui est venue et qui a dit, début décembre, qui a dit, bah, écoute, j'ai dormi sur mon banc, si je ne m'étais pas réveillée, eh ben, je serais morte, tellement il faisait froid. Ma couverture était trempée, elle était glacée, et si quelqu'un ne m'avait pas réveillée et secouée, je serais morte. Je fais, ok, maintenant, est-ce que tu es d'accord que j'appelle le SAMU social pour que tu ailles au SAMU social ce soir? Et bon, avec ma collègue, on a un peu travaillé là-dessus parce qu'il refusait catégoriquement d'aller au SAMU social. On a trouvé une place au SAMU social, on est allé jusqu'à l'intérieur, jusqu'à sa chambre, il m'a dit, ça, hors de question que je dorme là-dedans. Et monsieur est ressorti, et ça c'est une frustration dans la mesure où on se dit, merde, il va de nouveau dormir dehors, parce que nous, on peut pas nous imaginer qu'il dorme encore dehors sur son banc et qu'il nous dise le lendemain, ben, j'ai failli crever, ou qu'il crève. Mais de nouveau, là, c'est nous qui avons pensé pour lui ce qui était bon. Alors que lui, il savait très bien ce qu'il voulait. C'était dormir dehors, qu'il fasse froid ou pas. Et ça peut être une frustration pour nous, travailleurs sociaux, parce qu'on essaye de mettre des choses en place et les personnes refusent. Après, c'est une petite frustration dans la mesure où, voilà, pour en revenir à ce que j'ai dit au début, c'est les personnes savent ce qu'elles veulent et les personnes savent ce qui est bon pour elles.
Qu'est-ce qui te nourrit, toi, au quotidien? Tu parlais de petites victoires comme ça. Est-ce que c'est... ces petites victoires?
Ah, mais c'est les personnes qui viennent, les liens qu'on crée. Enfin, il y a un petit monsieur qui vient le lundi et le vendredi, de 85 ans. Mais lui, il est en logement tout près de Flagey. Il va à tous les endroits, tous les centres d'accueil, etc. Et en fait, il vient tout le temps, bon, pas uniquement, mais entre autres, parce qu'il doit mettre des gouttes dans ses yeux, parce qu'il a un glaucome et que... Pour le mardi, le mercredi et le jeudi, il a trouvé où aller, mais le lundi et le vendredi, c'est moi. Et donc, il vient pour que moi, je lui mette ses gouttes, parce que personne d'autre, il ne trouve personne d'autre. Voilà, c'est tout des petits trucs comme ça. Ou alors, quand quelqu'un accepte d'aller au SAMU social, ou quand... la personne qui est rentrée en logement, quand il nous l'a annoncé, c'était incroyable. Et donc, il devait signer le bail le 9. Et je fais, ah ouais, on est la semaine du 9, oui, bon, moi, tant que j'ai pas signé, je suis pas dedans, hein. Et donc, on est allé avec ma collègue à l'AIS, et quand il a posé les paraphes sur les pages et qu'il a signé à la fin, c'était, voilà, et alors, ce qui était très, 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 très émouvant à voir et très beau à voir, c'est, bon, ça, il le dira pas, hein, mais quand il a reçu les clés, il avait vraiment les larmes aux yeux. Et quand on est sorti de l'AIS, il était hyper ému, et c'est beau, c'est génial de voir ça. Enfin voilà, moi j'en ai des frissons rien qu'à en parler. Voilà,
moi aussi. C'est comme ça que tu te nourris finalement.
Oui, et puis même des personnes qui viennent au quotidien, qui disent qu'on est très important pour eux. Ça fait un peu pédant ce que je dis, mais ça montre qu'on n'est pas là pour rien et qu'on peut leur apporter avec des petites choses. Hein. Et là, je parle de quelqu'un qui, entre autres, je parle de quelqu'un qui ne prend pas la douche chez nous, qui vient pour parler et qui est là de 13 à 18 et qu'on accompagne, maintenant qu'on suit beaucoup plus, et qu'on accompagne à l'hôpital, qu'on accompagne au CPS, qu'on accompagne à la maison communale. Et à chaque fois, il nous dit « Oh, si vous n'étiez pas là !» Et enfin, si on n'était pas là, ce serait d'autres personnes qui le prendraient en charge. Mais voilà, et donc parfois, il nous dit « Ah, vous êtes un peu comme des petites fées, des petites gardiennes. » Voilà, il y a lui, mais il y a plein d'autres personnes. Une dame qui vient, qui a accouché il y a 3 mois d'une petite fille, qui vient nous la montrer, qui vient nous la présenter tout fièrement, et des choses comme ça. Et, oui, c'est chaque fois autre chose, et c'est chaque fois un peu des petites touches de bonheur, en fait, qui viennent égayer le quotidien. Et, en fait, je pense que mon boulot m'a fait comprendre que le monde du sans-abrisme, c'est pas que triste, c'est pas que difficile, c'est pas que des problèmes, c'est pas que des gens qui sont totalement hors circuit, ce sont des personnes comme chacun de nous, qui ne valent pas plus ou moins que quiconque. Ce sont des personnes qui ont un parcours de vie plus difficile que certaines autres personnes, qui ont énormément à nous apprendre. Il y a un homme de 74 ans qui vient chez nous, qui malheureusement a connu beaucoup de galères, mais qui nous les explique. Et c'est vraiment... ce sont des personnes qui nous enseignent énormément de choses.
J'allais te demander, qu'est-ce que tu as appris grâce à elle ? Si tu as l'impression d'avoir des traits de caractère qui ont évolué chez toi, qui ont changé ?
Oui, je pense qu'on est tous dans le jugement, en fait. Tout le temps. On est tout le temps tous dans le jugement et on croit que la personne pourrait faire plus. On croit que la personne exagère. On croit que la personne... ben voilà, une personne qui reçoit le RIS, ben elle pourrait un peu se bouger pour trouver un boulot ou n'importe quoi. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est tout ce qu'il y a derrière. Et voilà. Et donc maintenant, c'est considérer la personne comme elle est maintenant, au jour d'aujourd'hui, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, et d'être dans le non-jugement. Et aussi de moins faire un foin de petites choses en fait, du quotidien. Il y a tellement plus grave, quoi. Il y a tellement... Enfin, nous, personnes qui avons un logement, qui avons du boulot, qui avons de quoi manger, je pense qu'on se plaint énormément. On aime beaucoup ça. Je pense que ça nous fait vivre. Mais maintenant, je pense que je me plains beaucoup encore, mais pour des petites choses. Je pense pas que je me plaigne pour des... Ah, voilà, c'est la terre qui arrête de tourner parce que, je sais pas moi, j'ai perdu une chaussette. Ou, enfin voilà, je raconte une bêtise, mais c'est vraiment se rendre compte qu'il y a des personnes qui vivent avec tellement moins que nous et qui semblent presque plus heureux que nous, en fait.
Qu'est-ce que tu as envie de dire à la future génération des assistantes sociaux ?
De tenir le cap. De se nourrir de toutes les petites choses que peuvent apporter le boulot, qu'il y aura des moments très difficiles, qu'ils vont être confrontés à beaucoup de barrières et se prendre des murs dans la figure, mais qu'il faut tenir le coup parce que c'est un boulot assez extraordinaire et qu'on en apprend tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. On n'a jamais fini d'apprendre. Je suis sûre que jusqu'à... mais je ne sais pas quel âge, jusqu'à ma retraite en tout cas, hein, parce que ça va sans doute encore augmenter. Jusqu'à mon dernier jour.
Tu vas faire ça toute ta vie d'ailleurs.
Ah oui. Et même dans le secteur sans-abrisme, à mon avis, je me vois pas autre part. J'ai souvent considéré la question, mais je me vois pas autre part. Et donc c'est ça. C'est oui, être là pour les gens. Attention à leurs limites, que je n'ai pas. S'écouter aussi. Parce qu'effectivement, il y a des situations qui sont très difficiles et être capable de mettre le holà quand il le faut, mais de persévérer et de... Oui, vraiment, de se nourrir de chaque petite chose et de chaque petite victoire et de chaque petit mot.
Et qu'est-ce que tu as envie de dire à Fiona de 18 ans et à tous les étudiants qui se cachent un petit peu leur vocation ou qui se mettent des propres limites?
Non, moi je dirais de faire son chemin, parce que je pense que si j'avais dû étudier à 18 ans pour devenir assistante sociale, je n'aurais pas du tout été l'assistante sociale que je suis maintenant, pas du tout. Là j'ai fait mon chemin, j'ai étudié, j'ai travaillé, j'ai fait mes propres expériences, et surtout j'ai maturé mon choix. C'est un choix tout à fait réfléchi, et c'est un choix que j'ai fait en... avec une prise de recul aussi sur la vie. Et je pense qu'à 18 ans, j'aurais jamais eu cette prise de recul et j'aurais jamais considéré le travail d'assistante sociale comme je le considère maintenant. Donc je lui dirais, fais ta vie, ma petite Fiona, fais ta vie et tu verras après.
On arrive tout doucement à la fin de cette chouette rencontre. Est-ce que tu as un livre ou un film qui t'a inspiré ou que tu conseilles aux assistants sociaux ou aux personnes qui travaillent dans ton secteur du sans-abrisme?
Alors moi, un livre qui m'avait beaucoup plu et qui parle du sans-abrisme, c'est « J'habite en bas de chez vous », qui est écrit par une certaine Brigitte. Oh là là, et alors il y en a un autre, mais ça c'est de 1980. Les naufragés. Les naufragés.
Les naufragés.
Je sais plus de qui.
Les naufragés et j'habite en bas de chez vous.
Oui.
Alors les naufragés. Ce sont des livres sur le sans-abrisme
oui.
Ou des livres
okay. Oui, et les naufragés, ça c'est. Il faut bien considérer l'époque à laquelle ça a été écrit, parce que je pense que beaucoup de choses ont changé depuis. Mais ça, c'est un livre très instructif. Donc Les naufragés de Patrick de Clercq, qui donc, si je ne m'abuse, s'est mis, pas dans la paume en tout cas, à côtoyer les personnes sans-abri de Paris dans les années 80, et on a écrit un livre pour témoigner de son expérience. C'est vieux, je pense que si on devait le réécrire maintenant, ce ne serait pas la même chose. Donc je pense que J'habite en bas de chez vous est beaucoup plus d'actualité.
Ok, on les mettra en lien dans les informations du podcast. Fiona, je pense que tu nous as bien résumé pourquoi tu aimes ton métier finalement, en quoi il te passionne, et c'est super inspirant. Est-ce que tu pourrais me dire, finalement, une société sans assistante sociale, ce serait quoi?
Je pense que pour beaucoup de personnes, ce serait un manque de repères. Je pense qu'on est... Nous sommes des personnes... Oui, c'est ça, repères. Et donc, nous sommes des personnes chez lesquelles... Auprès desquelles beaucoup de personnes du public peuvent venir se confier, peuvent venir chercher de l'aide. Et je pense que s'il n'y avait pas ça, beaucoup de personnes... serait un peu perdu. Je suis très contente d'être tombée là, effectivement, par hasard, mais c'est un boulot qui me plaît énormément.
Eh bien, je te souhaite une belle continuation.
Merci de m'avoir reçue.
Avec grand plaisir, merci à toi.
Merci beaucoup.
À bientôt, Fiona.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu, inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment ? En partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche à oreille sans modération. Et si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du Guide Social ou directement sur le site de J'aime mon métier, www.j'aime-mon-métier.be. Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast@guidesocial.be. Merci pour votre soutien et à bientôt.